Propose de reprendre, résumer ce que nous avions fait la dernière fois. Vous vous rappelez qu'il y a eu une dernière fois, disons,
Oui.
justement à propos d'Alzheimer. Vous vous rappelez
On se rappelle,
c'est un exercice de prévention pour nous tous en vérité. Parce qu'imaginez-vous, 5 minutes avant de me connecter, je me suis rendu compte que je n'avais pas le dossier que j'avais employé aujourd'hui. J'étais catastrophé, puis en vérité, il était au milieu des autres dossiers. Mais bon, je voudrais qu'on regarde ensemble, j'essaie de faire cet exercice, ce tableau que je vous avais distribué, mais que j'avais essayé justement de vous mettre en ligne, en plein écran, partager l'écran. Je partage l'écran. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Oui.
Oui,
C'est magnifique, n'est-ce pas? De
oui.
pouvoir avoir un tableau noir qui est plutôt blanc comme ça. Mais vous l'avez aussi dans vos papiers si vous l'avez. Mais
Oui.
c'est commode de le voir. Vous rappelez, nous avons essayé de mettre en place le décor de notre cours et montrer comment. Il y a, je résume très rapidement, hein, il y a une dynamique sacramentelle qui est inscrite dans l'histoire du salut et qui a comme centre fondamental le Christ, son incarnation, son mystère pascal, hein, sa mort, sa résurrection, son retour dans la gloire vers le Père, assis à la droite du Père, son retour. Au moment du jugement, nous disons dans le credo. Hein? Et donc, les sacrements, je vous disais, et c'est très important de se le rappeler, nous sont donnés pour notre vie ici-bas. C'est-à-dire, ils ont une raison d'être à cause de l'absence, je dirais, physique, corporel du Christ. Hein? Nous sommes en relation avec un Christ ressuscité, pas un Christ corporel, hein, lié à l'histoire. À ce moment, il a été lié à l'histoire des hommes et des femmes de son temps. Mais il est dans la gloire, nous disons dans le credo. Et donc, les sacrements, voilà, sont en quelque sorte la médiation, le lieu qui nous permet de nous relier au mystère du salut accompli par le Christ. Et donc, il jalonne toute notre existence. Il y a comme, je vous disais, je pense que je le disais à vous aussi, les pères aiment dire que quand nous participons à un sacrement, notamment à l'Eucharistie, nous devenons des Christophores, des porte-Christ. Hein? Je pense qu'on peut le dire de tout sacrement, c'est-à-dire que tout sacrement nous fait toucher à la réalité salvifique et donc divine offerte par le Christ. Et donc, je vous disais, notre corps est comme la réplique, le miroir, hein, du corps même du Christ qui assumait notre propre corps. Et notre corps est marqué par les sacrements. Les sacrements, quelque part, marquent notre propre corps pour le vivifier, pour le rendre apte de recevoir la grâce. D'où ce schéma qui, vous savez, comme tout schéma, on pourrait en discuter. Je vous dirais quelles sont peut-être les choses qu'on pourrait corriger, les choses qu'on pourrait peut-être revoir. Ce schéma est tiré d'un article écrit par un grand théologien qui s'appelle Paul de Clercq. Alors, est-ce que je peux faire ça? Alors, je vais essayer j'enlève le, et je vous l'écris là, puis je reviens au tableau. Hein. Il s'appelle Paul de Clercq. Comme le dit le nom, c'est un Belge. Il était longtemps, deux ans, mon professeur de liturgie, et il était directeur de l'Institut de liturgie à Paris longtemps. Un grand historien de la liturgie. Bon, comme nous parlons de lui, j'aime bien faire le trait d'union avec les personnes que j'ai connues. Justement, Paul de Clercq, qui est un grand prof, professeur d'histoire, connaissant tout jusqu'à la dernière virgule d'un texte, eh bien, souffre de l'Alzheimer et il est sans moyens actuellement. C'est assez impressionnant quand on assiste à ces déclins des personnes qui ont compté pour nous et qui ne peuvent plus être ce qu'elles étaient. Voilà. Donc c'est lui qui a quelque part proposé ce schéma. Et qu'est-ce que nous voyons dans le schéma? Regardez-le bien. Vous voyez une ligne verticale dans laquelle, si vous tournez un peu le visage, les yeux, c'est marqué « Mystère Pascal ». Vous voyez, on pourrait dire que le mystère pascal, selon ce schéma, est à la fois au cœur et étendu et au cœur de l'existence chrétienne, parce que vous voyez, tout autour, il y a les sacrements qui marquent notre vie, hein. Et en même temps, il est au cœur, mais en même temps, il est tendu. Et quels sont les pôles de cette tension? Regardez bien. D'une part, tout en haut, il y a le baptême et la confirmation. Vous vous rappelez ce que j'ai appelé la porte d'entrée. Nous allons commencer à y parler cet après-midi. Tout en haut, le baptême et la confirmation. Et tout en bas, les funérailles. Nous avons là les deux pôles qui anthropologiquement définissent toute vie humaine. Nous naissons et nous mourrons, n'est-ce pas? Mais cette vie et cette mort n'a de sens que, ou peut avoir un sens, grâce à la foi, par le mystère pascal, c'est-à-dire par le fait que le Christ lui-même, le premier, est passé par une naissance, assumé une naissance, a vécu une vie comme nous, est mort et il est ressuscité. Donc il a transformé, il a donné une chance, je dirais, comme on dirait aujourd'hui, à notre propre mort et donc à une vie divine qui va vers, qui est destinée à la rencontre avec Dieu. D'où cette tension, vous voyez. Et comme je vous disais la dernière fois, il y a beaucoup d'analogies. On peut faire beaucoup d'analogies, comme on l'a fait aussi dans l'anthropologie, hein, entre la naissance et la mort, entre le baptême et les funérailles. Mais au cœur du mystère pascal, du point de vue sacramentel, il y a l'Eucharistie. Vous voyez, au centre, écrite en majuscule, c'est marqué Eucharistie. Et l'Eucharistie, pourquoi elle est au centre? Vous vous rappelez, j'en ai touché un petit mot la dernière fois. Tout simplement parce que, par excellence, l'Eucharistie est le sacrement qui fait le mémorial de la mort et de la résurrection du Christ. C'est elle que le Christ a offert aux siens pour, comme anticipation, nous le verrons dans le cours sur l'Eucharistie, pour anticiper de manière prophétique ce qu'il aurait vécu dans sa mort et dans sa résurrection. Et donc, quand il dit à ses disciples « Faites ceci en mémoire de moi » et que nous faisons cela en mémoire de lui, eh bien nous allons au cœur même du mystère pascal, de sa mort et de sa résurrection. L'Eucharistie au centre, parce qu'elle est, comme je vous disais, je ne sais pas si à vous ou à l'autre groupe, elle est comme une place de village italien. Je suis italien, donc je suis un peu chauvin, mais vous pouvez comprendre. Si vous avez jamais visité l'Italie, ou peut-être même un village dans le sud de la France, on peut le voir. Une place de village, à une place de village, toutes les rues convergent. Et à partir de la place de village, on remonte vers la maison. Et donc, l'Eucharistie est comme une sorte, je dis bien, de place de village. C'est-à-dire, on parviendra toujours à l'Eucharistie, ou bien il faudra passer par l'Eucharistie pour célébrer un sacrement. On parviendra toujours à l'Eucharistie, le baptême et la confirmation parviendront à l'Eucharistie. L'Eucharistie est le sommet de l'initiation. Mais par contre, l'ordre, le mariage seront célébrés toujours au cœur de l'Eucharistie. La réconciliation renouvellera la grâce baptismale et donnera accès à l'Eucharistie. Lors de l'onction des malades, l'Eucharistie deviendra le viatique, c'est-à-dire, ne le pensez pas de manière négative, le pain sur la route de celui qui est confronté avec la maladie. Et donc, vous voyez, le schéma veut montrer ça. Paul de Clercq a en outre voulu définir un peu les sacrements, les classer, si je peux dire. C'est ça qui est un peu, ça peut être opinable, ça peut être accepté ou non, on peut en discuter. Moi, par exemple, actuellement, je ne suis pas trop d'accord, mais je vous montre comment lui l'a pensé. Lui, il dit, par exemple, regardez de manière maintenant horizontale, il dit « l'ordre et la réconciliation sont en quelque sorte les fondements de l'Église ». Pourquoi il le dit ainsi? Parce qu'il dit, en gros, la réconciliation reconstitue le corps ecclésial. Quand quelqu'un se réconcilie par le sacrement de la réconciliation avec l'Église, c'est tout le corps ecclésial qui est refondé, reconstitué. Et puis l'ordre, parce que, effectivement, c'est par le ministère de l'évêque, des prêtres, des diacres, que nous accédons au sacrement. Et quelque part, les ministères ordonnés, épiscopat, presbytérat, diaconat, fondent, structurent, voilà, c'est peut-être mieux de parler de structuration de l'Église. Et puis, regardez un peu plus bas, il met « mariage et sacrement des malades » sont des situations dans l'Église. Alors, je dis toujours un peu en souriant, c'est pas que quand on se marie, on devient comme des malades. Il n'y a aucune relation entre l'un et l'autre. Sinon, le fait que, pourquoi il appelle ça des situations dans l'Église? Parce qu'effectivement, quand on est marié, on vit dans l'état de marié, on vit du charisme, du don. Pour l'Église, de vivre le mariage et donc d'être dans un état de marié. Et quand on est malade, c'est à nouveau un autre état qu'on peut vivre dans la vie, que l'on ne recherche pas naturellement, mais auquel on peut être confronté au cours de la vie. Cet état peut être provisoire ou définitif. Vous voyez, ça dépend du moment où la maladie apparaît. Mais, voilà, on pourrait dire, mais pourquoi ne pas mettre comme situation dans l'Église au pluriel, donc comme un état qui le met, l'ordre aussi, c'est-à-dire faire un pendant entre le mariage et l'ordre. Comme je vous disais la dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur la question du célibat. ceux qui vivent le célibat pour le royaume de Dieu, dit l'Évangile, hein, et donc ceux qui vivent le célibat en vue d'un ministre dans l'Église, vivent eux aussi un état, hein, dans l'Église, mis à disposition de l'Église, comme les mariés, comme deux personnes qui se marient, vivent cet état. Donc vous voyez, on pourrait à la limite revoir ce schéma, mais l'essentiel me semble assez parlant. Pour voir où nous allons, c'est, comme je vous disais, comment dire ça, c'est la plaquette de l'agence de voyage pour vous montrer où nous allons. Voilà. Donc, est-ce qu'il y aurait, à partir de ce schéma, quelques questions, quelques réactions, quelques prises de parole? Est-ce que vous êtes, par exemple, d'accord avec moi de dire, mais en fin de compte, ordre et mariage pourraient être mis au même plan, être des états dans l'Église plutôt que... Et vous voyez comment c'est complexe et comme tout schéma peut être limité. Mais je vous laisse la parole.
L'Eucharistie, moi, qui me trouble.
Alors, c'est Denis qui parle.
Oui, c'est Denis qui parle. C'est l'Eucharistie à deux niveaux.
Ah, allez-y, pourquoi ça vous trouble?
Alors, il y a deux choses. Premièrement, comme on en a parlé en équipe avec Pascal Hertz, pendant le premier et deuxième confinement, l'Eucharistie, pour certains d'entre nous, ne nous a pas manqué.
Oui.
Pourquoi? Ça, c'est bizarre. Hein? Et la deuxième question, c'est aujourd'hui, quand des jeunes mariés, enfin, des jeunes fiancés, enfin, des jeunes, ou plus ou moins jeunes, hein, avec Annie, on s'occupe de préparation au mariage, il devient de plus en plus rare qu'il y ait la célébration eucharistique. Donc, ils ne partagent pas l'eucharistie. Tout à l'heure, vous avez dit le mariage passe par l'eucharistie. Quelque chose de ce sens-là. Donc là, je suis un peu troublé parce qu'aujourd'hui, nos prêtres ne poussent pas à avoir l'Eucharistie pendant les mariages à l'Église, parce qu'ils savent que les gens qu'on a en face de nous, pour certains, n'ont pas mis les pieds à l'Église depuis un temps.
Oui, pendant tout le confinement.
Ah non, non, même avant le confinement.
Même avant, oui, oui.
C'est pas une nouveauté.
Oui.
Donc, je suis un peu troublé par ces deux points-là. D'abord, le plus troublant est certainement que nous n'avons pas eu un manque réel d'Eucharistie pendant le premier et deuxième confinement. Est-ce que c'est parce que la communauté avec laquelle on vivait était plus forte? Parce que l'Eucharistie, c'est tout de même un partage en communauté.
Mm-hmm.
Est-ce qu'on ne peut pas partager autre chose que le pain du Christ?
Mm-hmm.
Voilà. Hier, on l'a évoqué aussi dans notre groupe, notre équipe, et en effet, on a constaté que pour certains, l'Eucharistie avait beaucoup manqué, pour d'autres, non. Et Philippe Armand nous a remarqué qu'il y a deux parties dans la messe, très clairement. Il y a la liturgie de la parole et puis l'Eucharistie. Et au fond, on ne peut pas réduire notre foi à la seule Eucharistie. Avant tout, il y a la parole de Dieu, enfin de l'Évangile. Enfin voilà, c'était l'explication qu'on en a donnée, qui a été, parce qu'il y a eu vraiment un peu des clivages entre les catholiques, hein, ceux qui regrettaient vraiment l'Eucharistie, voulaient avoir une Eucharistie à tout prix, et ceux qui disaient, au fond, c'est une autre façon de vivre la parole de Dieu, elle peut aussi se passer peut-être de l'Eucharistie.
Oui.
Deuxièmement, nous aussi hier, au contraire, toujours notre responsable de groupe, Philippe Parment, lui a très clairement dit que, au contraire de ce que vous dites, moi j'ai pas d'avis sur la question, mais ça m'a étonné ce qu'il a dit. Il a dit que justement l'Eucharistie n'avait peut-être pas sa place dans le sacrement du mariage.
Mm-hmm.
Je sais pas très bien d'ailleurs, j'aurais dû lui poser la question. Et troisièmement, mais c'est un peu une question qui est hors sujet, parce que ça n'est pas dans l'architecture générale et c'est tout à fait sur les sacrements, et j'aurais dû la poser la dernière fois, mais ça a été aussi évoqué hier. Pourquoi l'entrée dans la vie monastique, l'engagement dans la vie monastique, les vœux monastiques ne sont pas considérés comme un sacrement? Mais pardonnez-moi, ça c'est un autre sujet.
Oui. Je le mets en réserve
Ah.
pour une fois où nous ne saurions pas de quoi parler. Je doute que nous ne saurons pas de quoi parler, mais je le mets quand même.
Juste si je puis me permettre, sur la question justement des vœux monastiques, la semaine dernière, vous avez dit que vous ne les mettiez
Alors,
pas dans ces manuels, vous ne les mettiez
Emmanuel.
pas dans les sacrements, que ce n'était pas mis dans les sacrements aussi parce que ça avait été enlevé du fait que ça ne concernait pas tout le monde, que c'était un nombre très particulier. Enfin, moi, c'est ce que j'ai retenu de ce que vous aviez dit la dernière fois. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question, mais.
Oui,
Mais
c'est tout à fait ça. Oui, c'est pas un choix personnel au sens, c'est pas un pape qui a décidé ça. C'est effectivement la réflexion des théologiens du Moyen Âge, de la scolastique, qui au moment de définir ces listes de sacrements essaye de donner on pourrait dire des caractéristiques de ce qui est essentiel. Donc, je le répète, je le rappelle rapidement, les sacrements sont destinés au salut, ils apportent le salut, nous font vivre du salut du Christ, apporté par le Christ, et ils sont adressés à tous. Là, justement, comme dit Emmanuel, c'est un peu ça que, c'est pas moi qui ai avancé, mais c'est les théologiens du Moyen Âge. C'est parce que le célibat, c'est-à-dire le fait de renoncer à une femme, n'est pas commun à tous que ça ne peut pas être un sacrement.
Bah, c'est comme l'ordination.
L'ordination, c'est de l'ordre d'une coutume ecclésiastique.
Oui,
Vous voyez?
enfin bon.
Effectivement, nous pouvons poser la question, et là, il peut y avoir un avancement dans la théologie catholique, sur la pertinence ou non que les prêtres ne soient pas mariés. Mais il faudra toujours distinguer, parce que cela c'est depuis le début de l'Église chrétienne, entre ceux qui vivent l'état de mariés et ceux qui choisissent, c'est même dans l'Évangile, hein, je reprends la phrase de l'Évangile un peu forte, que ceux qui se rendent eunuques pour le royaume de Dieu.
Oui, mais je veux dire, l'ordination n'est pas réservée, ouverte à tout le monde. Je ne vois pas la différence entre le choix d'une vie monastique qui concerne certains et le choix d'un ministère qui concerne aussi certains.
Mais je
Je ne
vous fais
comprends pas
remarquer.
le caractère universel de l'un et pas celui de l'autre.
Quelqu'un veut répondre à ça?
Moi, je me demandais si ce n'était pas lié au fait que
C'est
le
Ariane.
oui, pardon.
Non, 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 c'est très bien.
Le choix de la vie monastique est un choix qui porte le salut pour le monde, mais en retrait du monde. Et que les sacrements sont ouverts à tous parce qu'ils sont dans le monde. Et que
Ça, c'est.
l'ordination, elle est, voilà, on est ordonné prêtre pour être dans la vie. Je me demandais si la différence
Oui,
venait pas de là.
ça, merci Ariane, c'est une autre remarque assez intéressante à laquelle je n'avais pas pensé d'emblée. Mais il est vrai que la condition de moine à l'origine demande de s'éloigner de la ville, de se retirer des activités profanes ou civiles. Hein. Les premiers moines vont au désert. Mais même au Moyen Âge, pensez aux cisterciens. Nous voyons maintenant les abbayes cisterciennes ou bénédictines florissantes, dans des lieux presque à côté des villes ou bien. Mais rappelons-nous que ces abbayes-là étaient au milieu de forêts dispersées dans les forêts ou dans les vallées. Donc effectivement, vous avez tout à fait raison, Ariane. Le charisme ou l'appel à la vie monastique est toujours un appel à aller au désert. Et cela n'est pas pour tous. Cela ne peut pas être. Pas tout le monde peut accéder à ça. Et le moine ne serait plus moine s'il commençait à être prêtre, par exemple. Je vous complique les affaires, mais nous en parlerons quand nous parlerons de l'ordination. Mais pas tous les moines sont prêtres. Je ne suis pas prêtre, par exemple. Hein? Je vous fais remarquer. Donc, on peut être moine, mais pas prêtre. Et voilà. Donc, pour une question d'appel, de charisme dans l'Église. Merci, Ariane, pour cette remarque. Cela dit, Sophie, il faut que je clique un peu pour comprendre, pour voir les noms. Sophie, pouvons-nous dire que pourquoi la prêtrise ne serait pas destinée pas à tout le monde? C'est pas vrai théologiquement. Vous savez que tout prêtre est prêtre parce que tout simplement, il a d'abord, comment on peut dire ça, c'est par son baptême qu'il est prêtre. Et donc, tout baptisé peut être prêtre.
Pas les femmes.
Ça, c'est une question canonique et de coutume. J'insiste beaucoup. Apprenons à distinguer cela. Ce n'est pas une question, justement, entre guillemets, définitive. C'est une question de coutume. Par exemple, je regarde du côté des protestants, oui, du monde protestant, et je vois que des femmes peuvent être ministres. Hein? Donc, du coup, je peux me poser la question, je ne dis pas que ce sera pour demain, hein? Mais si dans le monde catholique, ben, vous avez vu que le motu proprio du pape François a déjà fait un petit pas vers quelque chose qui était déjà vécu en vérité. Hein? Il n'a fait qu'avaler quelque chose qui était déjà vécu dans notre propre Église. Eh bien, cela... Mais je reviens à Denis.
S'il vous plaît, moi je voudrais dire que c'est clair.
Claire.
Oui, je trouve qu'on est vraiment les derniers des derniers parce qu'il y a des rabbines, il y a maintenant des imams femmes. Et il y a juste les chrétiens qui n'ont pas de représentation.
Les catholiques.
Mm-hmm. Voilà.
Oui, oui, mais ça pourrait nous poser question, non?
Moi, ça me pose vraiment des questions. Oui.
Mais c'est bien, mais ça pose des questions aussi au pape, ça c'est intéressant. C'est-à-dire, ça veut dire quelque chose. Hein? Alors, attention, hein? Nous sommes libres de parler ici entre nous, hein, même ailleurs, je suis libre de dire ce que je pense. Mais bien sûr, vous remarquez qu'il faut du temps pour faire avancer l'imaginaire et les représentations dans un corps ecclésial.
Et surtout une confiscation du pouvoir par les mâles.
Ça, c'est autre chose.
Il y a un esprit un peu rétrograde de notre hiérarchie.
Il y a une représentation très machiste dans l'Église catholique, ça c'est sûr. Vous avez tout à fait raison.
Juste une petite... Emmanuel, de nouveau. Jésus était un homme, en tout cas oui, sur terre, et les apôtres, il a fondé son Église sur un homme. Donc, est-ce que ça signifie, c'est quand même... c'est une question que je pose juste. Hein,
oui, bien sûr.
Après,
oui.
Voilà.
Une
polémique, en fait.
Comment, Sophie?
C'est l'époque qui voulait ça. Il faut remettre ça dans le contexte.
Je pense que c'est important.
Oui, mais dans la vie samaritaine, le Christ a quand même confié à la Samaritaine d'aller porter la parole du Christ. Donc, et Marie-Madeleine. Donc, on ne peut pas dire que le Christ était éliminé les femmes.
Emmanuel ne voulait pas dire ça. Hein, et c'est dans un autre registre ce que vous dites.
Je confirme, hein. Je ne voulais pas dire ça.
Voilà. Ah, Anaïs, c'est dans un autre registre. Jésus a fait aux femmes. Mais ce n'est pas de l'ordre d'un ministère tel que nous l'entendons aujourd'hui. Vous voyez?
D'accord.
Ce qu'Emmanuel voulait dire, c'est qu'effectivement, et c'est une des raisons, je vous fais remarquer, notamment des orthodoxes, parce que les orthodoxes aussi sont assez réticents à ordonner, à s'ouvrir au ministère féminin. Ils disent, c'est de l'ordre presque iconique, c'est-à-dire c'est puisque le Christ était homme, il faut qu'il y ait que le ministre qui le représente soit homme, presque de manière iconique. Mais à cela, je suis tout à fait d'accord. J'ajouterai ce que disait Sophie. Réfléchissons un peu. Est-ce que Dieu, je vous le dis tout simplement, est-ce que Dieu, dans le monde juif de l'époque où Jésus est né, aurait pu s'incarner dans une femme?
Probablement pas.
Probablement pas. C'est une question de culture, de société, vous voyez.
Il y avait une chance sur deux.
Il y a une chance sur deux.
Je ne crois pas.
Oui et non. C'est-à-dire, la place des femmes à cette époque était vraiment limitée, voire. La femme, je ne dis pas qu'elle n'avait pas de statut, loin de là, mais quand même, je pense que sa parole aurait été pas audible. Et déjà, Jésus a eu du mal à se rendre audible. Il en est mort même, je dirais. Et c'est quelqu'un que, et là du coup je rejoins Anaïs, c'est quelqu'un que pourtant donnait de la place aux femmes. Voilà ce qui nous intéresse. C'est-à-dire qui n'est pas de l'ordre du ministère, mais voilà. Donc, je pense que, Emmanuel, cela est quelque chose qu'on pourrait discuter.
Je ne sais pas, mais moi, il y a quand même, enfin, ça m'interroge quand même, parce que je pense que le Christ a été capable de révolutionner plein de choses, et que du coup, je ne suis pas sûre que ça soit uniquement parce que l'époque ne le voulait pas. Mais bon, après, encore une fois, voilà, on le saura quand on rencontrera Dieu et qu'il pourra nous dire ce qu'il en était dans son plan, mais je ne sais pas. Enfin, franchement…
Oui, voilà, non, mais concrètement…
Et je suis loin d'être machiste, c'est pas…
Oui, non, je sais. Mais concrètement, Emmanuel, le Christ ne pouvait pas, il n'y avait pas d'exemple de prêtresse.
Ouais, peut-être, je ne sais pas.
Les ministres, les lévites étaient un groupe précis, des mâles. Et Jésus recuse le fait d'être lévite, ne veut pas être lévite, justement, pour garder cet aspect universel. C'est assez intéressant, hein, tout ce que nous sommes en train de dire. Mais voilà, nous en reparlerons quand nous parlerons de l'ordre. Vous êtes d'accord?
D'accord. Oui.
Par contre, Denis m'a lancé un défi. Il est tout tranquille sur son canapé, mais quand même, il a posé des questions importantes. Il a dit, mais en fin de compte, pourquoi l'Eucharistie au centre? Je reprends, vous me corrigerez, Denis, si je ne reporte pas bien ce que vous dites.
C'est ça, c'est ça.
Pourquoi l'Eucharistie serait au centre alors que nous constatons qu'à la sortie, ou pendant le confinement, pendant le confinement, l'Eucharistie ne nous a pas manqué. Et à la sortie du confinement, pas tout le monde revient en courant vers l'Eucharistie. Première question. Deuxième question, celle du mariage. C'est-à-dire, pourquoi, Bénédicte, je constate que le mariage, au cours d'une célébration de mariage, pas souvent, loin de là, est célébré l'Eucharistie. On fait que la bénédiction du mariage. Je vous inviterai, mais ça c'est une question de méthodologie. Quand on fait de la théologie, je me permets de vous faire remarquer une chose. Faisons toujours la distinction entre la théologie, c'est-à-dire ce que dit la foi de l'Église, ou disons, la manière de penser un fait dans l'Église, et les pratiques pastorales, qui sont plutôt, qui bougent, qui peuvent évoluer, justement. Hein? Alors, si je regarde du côté de la théologie l'Eucharistie, il est clair, je le dis fermement, il est clair que l'Eucharistie est fondamentale, est le cœur de la rencontre avec le Christ. Je ne dis pas qu'elle est la seule, mais elle est fondamentale parce que, nous le verrons encore, et Denis, je ne veux pas vous convaincre aujourd'hui en 5 minutes, nous le verrons quand nous parlerons de l'Eucharistie. Mais parce que c'est le geste que le Christ nous a livré, nous demandant de le refaire, Et à chaque fois que nous le refaisons, nous répondons à sa demande. Nous actualisons sa mort et sa résurrection telle qu'il a voulu. D'où l'importance de l'Eucharistie du point de vue théologique. Après, je regarde cela du côté pastoral, et il est vrai qu'on peut avoir une désaffection. Et alors, du coup, il faudrait que je me demande pourquoi les gens s'éloignent de l'Eucharistie. Peut-être qu'il y a d'autres motivations, mais qui ne peuvent en aucune manière mettre en doute l'importance de l'Eucharistie en tant que sacrement, sacrement, qui fait le mémorial, qui actualise le mémorial de la Pâque du Christ. Voilà, ça c'est une première chose. C'est pareil pour le mariage. Il est clair que, pastoralement, assez souvent, les couples qui demandent le mariage se découplent, disons, pas tout le temps, mais la plupart peuvent le demander par réflexe coutumier, justement. C'est de l'ordre d'un rite de passage, vivre le mariage à l'Église. Et on veut le vivre parce que la société le fait, parce qu'on fait la fête, voilà. Il y a tout le côté très cérémoniel qui est important. Et donc, de manière intelligente, l'Église a dit, effectivement, on peut faire que la bénédiction du mariage. Mais théologiquement, penser le mariage au cœur de l'Eucharistie, c'est-à-dire au cœur du don que le Christ fait de lui-même à son Église, et là je reprends la vision paulinienne du mariage, le Christ qui se donne à l'Église, son épouse, mais penser cela au cœur de l'Eucharistie, théologiquement, a un fondement profond, c'est-à-dire peut-être nous faire comprendre le mystère propre du mariage. Après, c'est une autre question du fait que les gens ne sont plus capables ou ne font pas le lien direct avec cette perception et leur vécu qui est peut-être qui s'est éloigné de l'Église et des pratiques ecclésiales. Mais je vous promets, nous reviendrons sur ces deux questions au moment où nous parlerons de l'Eucharistie et au moment où nous parlerons du mariage. Mais je voudrais juste que vous reteniez ceci. Faisons toujours attention à distinguer entre ce que la théologie nous dit, ce qu'une réflexion nous dit, et ce que le vécu, la pastorale nous dit aussi. Parfois, il faut ajuster les deux, attention. L'exemple du mariage est un bel exemple. Parce qu'on ne dit pas, si vous ne faites pas l'Eucharistie, vous n'êtes pas marié. Mais on dit, si cela vous semble de trop, si vous n'êtes pas habitué, ben, vivez simplement la bénédiction du mariage. Mais par contre, pour l'Eucharistie, il faut tenir théologiquement, quel est le centre de la vie chrétienne et que la désaffection que l'on peut constater dépend d'autres situations qui sont plutôt d'ordre social, de l'évolution de la société. Je vous propose, là je prends une initiative de mon propre chef, vous voyez comment je sais être aussi autoritaire, de fermer la discussion pour le moment et de commencer ce que nous avons prévu aujourd'hui. Nous commençons à parler du baptême. Nous aurons d'autres plages de discussion. Et vraiment, je vous propose, quand une question vous vient à la tête, marquez-la dans un coin de votre papier que vous avez sous les yeux, et puis vous me l'envoyez, vous me la posez, et on pourra en discuter ensemble. Vous voyez comment la question de l'un va au service des autres. Donc, merci à tous ceux qui ont posé des questions et qui ont participé aux réponses, parce que je n'ai pas répondu tout seul, je vous fais remarquer. Donc, nous allons parler du baptême. Alors, je vais chercher le document qui parle du baptême. Je ferme celui-là. Attendez, je vais chercher. Ah, et voilà le plan. Vous l'avez sous les yeux? Je vais presque l'ouvrir. Hein. Votre miséricordie aussi avec les ordinateurs, oui, qui parfois sont pleins comme des œufs, comme on dit, et qui ont du mal à ouvrir les documents. Coucou, voilà. Je vais vous le mettre à sous les yeux. Alors, partagez l'écran. Voilà, vous le voyez là?
Oui.
Et donc, j'ai intitulé cette partie « Les sacrements de l'initiation chrétienne ». Très rapidement, je reviens plus à ce que je vous ai dit, « Les sacrements au pluriel » parce que, je vous disais, ce qu'on appelle l'initiation chrétienne est une notion qui englobe les trois premiers sacrements, ceux qui font entrer dans la vie chrétienne, baptême, confirmation et eucharistie. Cette notion d'initiation remonte au temps les plus anciens de la Grèce antique. Hein. On était initié au mystère des religions, un mystère. Hein. Et le vocabulaire rentre peu à peu en christianisme. On dira au 4e, 5e siècle qu'on est initié, qu'on vit une initiation au baptême, à l'Eucharistie. Hein. Et puis, la notion va disparaître tout au long du premier millénaire, hein, à partir du 6e siècle. Les raisons sont assez claires. Hein, c'est parce qu'on perd l'habitude de célébrer l'initiation. Et la notion va réapparaître, en vérité, au seuil du 20e siècle, même un peu auparavant, par les recherches liées à l'histoire, à la littérature ancienne. Et donc, on va remarquer que le mot était employé et par la littérature profane et par la littérature chrétienne pour dire effectivement une initiation à un fait religieux ou à la vie chrétienne tout court. Et ce mot, initiation chrétienne, l'expression initiation chrétienne, va rentrer dans le vocabulaire de la théologie catholique, notamment parce qu'il va devenir le titre du rituel de, justement, l'initiation chrétienne des adultes, c'est-à-dire du rituel dont on se sert, utilisé pour initier les adultes à la vie chrétienne. C'est une nouveauté absolue en monde catholique. J'y reviendrai sur cette nouveauté quand nous parlerons dans un deuxième volet, la prochaine fois, du vécu liturgique d'aujourd'hui. Mais je voudrais, donc voilà d'où vient la notion d'initiation. Mais je voudrais aujourd'hui vous parler, je vous l'avais annoncé déjà hein, dans la présentation du cours, vous ouvrir, si je peux dire, au volet plutôt historique. Comment on est arrivé à célébrer en trois gestes cette initiation. Pourquoi on a mis en œuvre une plongée dans l'eau, une onction d'huile, une participation à l'Eucharistie pour pouvoir marquer l'entrée dans la vie chrétienne. Et donc, nous restons dans cette domaine de l'évolution historique de ces gestes, et nous le faisons en deux moments. Tout d'abord, en faisant référence à la tradition de l'Église. Tout d'abord, un regard rapide sur le Nouveau Testament. Qu'est-ce que nous dit le Nouveau Testament de ces gestes-là, du baptême, de l'onction? Et puis nous allons regarder, toujours à la lumière de la tradition de l'Église, comment ces gestes se sont développés dans l'histoire de l'Église. D'où le dossier de texte que je vais ouvrir en un deuxième moment, que Hélène vous a envoyé, hein, et qui font partie, que nous allons regarder ensemble, travailler ensemble. Mais commençons tout d'abord, regardez dans le plan, le témoignage de la tradition de l'Église, le Nouveau Testament. Tout d'abord, je peux constater que les sources principales pour savoir d'où viennent ces gestes à partir du Nouveau Testament sont les lettres de Paul et les lettres écrites en son nom, donc ce qu'on dit de son école, de l'école de Paul. Vous savez que pas toutes les lettres qu'on attribue à Paul sont écrites par Paul. Aujourd'hui, les exégètes sont assez clairs sur ça. Et puis, les actes des apôtres et les évangiles. Nous avons des témoignages dans ces écrits-là. Et en effet, les écrits de Paul nous offrent les premiers enseignements sous forme d'allusions au sujet de l'expérience baptismale des communautés auxquelles Paul s'adresse. Par exemple, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1, versets 10 à 17, nous sommes dans ce passage-là face à des divisions et à des factions qui minent l'unité de la communauté. Eh bien, Paul, je vous cite le passage, comme ça vous met dans le contexte. Je vous le lis, je cite. « En effet, mes frères, les gens de Chloé m'ont appris qu'il y a des discordes parmi vous. Je m'explique, chacun de vous parle ainsi. Moi j'appartiens à Paul, moi à Apollos, moi à Céphas, moi au Christ. » Et Paul réagit, « Le Christ est-il divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Dieu merci, je n'ai baptisé aucun de vous excepté Crispus et Gaius. Ainsi, nul ne peut dire que vous avez été baptisé en mon nom. Ah si, j'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Pour le reste, je n'ai baptisé personne d'autre que je sache. » Donc, vous voyez, Paul semble indiquer dans ce passage que le baptême dans les communautés chrétiennes, comme celle de Corinthe, était administré au nom de Jésus. Au nom de. Et c'est ainsi qu'il va l'affirmer plus loin, quand il dit, toujours dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, au verset 11, il dit ceci, « Voilà ce que vous étiez, du moins quelques-uns, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Vous entendez bien que l'évocation que Paul fait par allusion sont celles, c'est une allusion faite à l'eau. Vous avez été lavé, vous avez été sanctifié, justifié au nom de Jésus. Eh bien, toujours dans cette même lettre, le terme sanctifié pourrait faire penser qu'il s'agit encore du baptême. Dans les Actes des apôtres, on retrouve quelques allusions à des baptêmes. J'ouvre une parenthèse. Quand je dis baptême, dans ce contexte, pensez tout de suite à plonger dans l'eau. Parce que c'est cela que veut dire baptême. Ne pensez pas à quelques gouttelettes d'eau sur le chef, hein, sur le front. Pensez vraiment au fait de plonger le corps dans l'eau, tel que les Juifs le pratiquaient. On y reviendra. Eh bien, dans les Actes des Apôtres, on parle de ces plongées dans l'eau, et les Actes des Apôtres en parlent pratiquement toujours comme étant accomplis au nom de Jésus. Ainsi, nous savons que il y a des baptêmes de groupe. Par exemple, en Samarie, on retrouve cette allusion dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, au verset 12. Il y a parfois des plongées dans l'eau, des chefs de famille avec leur famille. Et souvent sont mentionnés ou est mentionné aussi à la suite du rite de l'imposition des mains qui confère l'imposition des mains, l'Esprit Saint, on fait mention de la plongée d'eau. Donc, ce qui est sûr, c'est que, effectivement, il y a là une. On peut résumer, si vous voulez, que la communauté primitive, les premiers chrétiens, semblent connaître déjà des gestes baptismaux, on pourrait dire un rite baptismal qui se caractérise, et là je résume hein, de manière un peu synthétique, qui se caractérise par un geste d'eau, plongé dans l'eau, souvent mentionné à la suite d'un rite d'imposition des mains, ce geste d'eau accompagné d'une imposition des mains est accompli au nom de Jésus. Mais parfois, on retrouve aussi ce geste accompagné d'une formule et il est accompli au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est la formule que nous connaissons. Alors, sachez une chose très importante. À l'époque où les Actes des Apôtres s'écrivent, les Évangiles s'écrivent, ces deux formes coexistent. La plongée dans l'eau accompagnée de « au nom de Jésus » ou la plongée dans l'eau accompagnée de « au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », c'est-à-dire une formulation trinitaire que l'on retrouve à la fin de l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28, verset 19. Eh bien, ces deux manières de célébrer le baptême, au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, caractérisent le vécu de deux communautés chrétiennes différentes. Celles qui célèbrent le baptême au nom de Jésus sont tous les spécialistes sont d'accord pour le dire, sont plutôt des communautés judéo-chrétiennes, c'est-à-dire issues du monde juif, pour lesquelles la relation au Rabbi Jésus est très importante. Par contre, les communautés qui célèbrent, qui font cette plongée d'eau au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, sont les communautés issues de la prédication faite aux non-juifs, et donc aux communautés d'origine grecque à cette époque-là. Ce qui est sûr, et c'est important aussi de le souligner, c'est que c'est la formule trinitaire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui va être retenue par la suite, alors que la formule au nom de Jésus va disparaître comme vont disparaître en vérité peu à peu les communautés judéo-chrétiennes. C'est bien de cette formule-là que nous avons hérité encore aujourd'hui. Nous sommes là, j'insisterai pour vous le montrer, pour le dire, hein, vous le remarquez vous-même, nous sommes là au cœur même, à l'origine du geste baptismal. Je vous fais remarquer une chose. Un peu comme si Agatha Christie cherchait l'assassin. Vous l'avez remarqué tout de suite, nulle part on parle d'onction à cette époque. On ne parle pas d'huile. Hein? L'esprit est donné par l'imposition des mains, accompagné ou scellé, on pourrait dire, par la plongée dans l'eau. Donc déjà, remarquons que, voilà, on parle pas de onction, encore moins de confirmation. Hein? C'est important. Retenez ça. Retenez-le d'un côté de votre de cette évolution du baptême. Mais le Nouveau Testament nous montre aussi que je suis là au point 1.1.2. Qu'il y a des structures qui se mettent en place autour du baptême. Généralement, effectivement, on peut retrouver un enseignement avant le baptême et un enseignement après le baptême. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qu'on peut entendre par enseignement? Ne pensez pas, surtout pas, au catéchisme. Il n'est pas encore question de catéchisme. Il est question d'annonce du Christ. Hein? C'est-à-dire que le geste baptismal au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils et de l'Esprit n'est que le rite qui scelle une adhésion à l'annonce de la bonne nouvelle du Christ. Et donc, c'est souvent avant ce geste-là, avant le geste baptismal, avant la plongée baptismale, il y a d'abord l'annonce du Christ, sa mort, sa résurrection. Un bel exemple, nous l'avons dans le discours de Pierre, le jour de la Pentecôte, en Actes, chapitre 2, Actes des Apôtres. Chapitre 2, versets 37 et suivants. Je vous le résume. C'est le jour de la Pentecôte. Les disciples reçoivent le don de l'Esprit. Vous vous rappelez de ce moment? Ils sortent dans la ville de Jérusalem. Les Actes des Apôtres nous disent qu'ils se mettent à parler en plusieurs langues, ou mieux, que tous ceux qui parlaient une langue les comprenaient dans leur propre langue, et que les gens disent, ils sont quand même un peu sous. Donc, ils doivent avoir un peu bu. Hein? Tellement ils sont enthousiastes par le don de l'esprit. Eh bien, après ces premiers moments de stupéfaction de la part des auditeurs, les Actes des apôtres mettent en œuvre un discours prononcé par Pierre, un long discours. Et les Actes des apôtres nous disent qu'à la fin de ce discours, les auditeurs disent à Pierre, « Que devons-nous donc faire ?» Que devons-nous donc faire ? Pierre, je vous fais remarquer que Pierre avait terminé par ce Christ qui s'est montré, qui s'est révélé parmi nous, c'est vous qui l'avez tué. Alors, du coup, les auditeurs, pris de remords, de culpabilité, on pourrait dire, ils disent, que devons-nous faire ? Et Pierre répond, retenez ces trois moments, convertissez-vous, première condition, que chacun se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Deuxième chose importante, vous recevrez les dons de l'Esprit-Saint. Pour les premiers chrétiens, le but du baptême, le don le plus grand que pouvait donner le baptême, c'était l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint est vécu pour, bien sûr, adhérer à la bonne nouvelle du Christ, scelle cette adhésion à la bonne nouvelle du Christ, mais procure l'Esprit-Saint. Procure l'Esprit-Saint. Et donc, les chrétiens aiment appeler à cette époque, hein, il y a une belle expression, cette adhésion à la foi chrétienne scellée par le baptême, aiment l'appeler la voie. La voie, pas la voie scellée avec laquelle je vous parle, mais la voie que l'on parcourt, une route, la voie. Vous retrouvez cette expression très belle, je dirais presque très moderne, hein, au chapitre 9 des Actes des apôtres, au verset 2, ou bien encore au chapitre 16, au verset 17. Mais il y a aussi un enseignement après le baptême. L'exemple le plus clair, même que nous avons en tête, que nous entendons chaque année, la nuit de Pâques, c'est celui que est véhiculé ou fixé dans la lettre aux Romains, au chapitre 6. Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ, comportez-vous donc comme des disciples du Christ et ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Une sorte de, on appelle techniquement parénèse, c'est-à-dire invitation, conseil à vivre de la vie chrétienne à la suite du Christ. Alors, on peut retrouver beaucoup de ces invitations de Paul ou d'autres apôtres, surtout de Paul, dans les lettres pauliniennes, hein, qui permet de voir qu'il peut y avoir aussi une prolongation de cet enseignement qui avait au cœur l'annonce de la bonne nouvelle du Christ dans la vie de tous les jours. Donc, comment je peux vivre cette vie chrétienne dans la vie de tous les jours? On peut retrouver cet enseignement qui pouvait se faire, je dis bien, c'est d'ordre hypothétique parce que nous ne savons pas comment étaient agencées ces lettres, quel était leur contexte, mais on peut penser. Moi, les thèmes qu'il développe peuvent être bien des enseignements après le baptême. On peut aussi constater qu'on reconnaît des ministres autour de ces gestes baptismaux. Les épîtres pauliniennes font mention de plusieurs ministres d'enseignement. Il y a des appellations de certains de ces ministres. On les appelle apôtres, on les appelle prophètes, on les appelle didascales, enseignants. Didascales, c'est-à-dire enseignants. Et pour l'intervention du baptême, pour plonger dans l'eau, on reconnaît parfois l'intervention de certains d'entre les douze, mais aussi certains de leurs compagnons, comme Barnabé, Silas, Apollos. Et les gestes rituels sont ceux que je vous ai indiqués tout à l'heure, c'est-à-dire imposition des mains, suivi ou précédé de la plongée baptismale au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parfois, les actes sont assez surprenants et c'est assez intéressant que les actes aient voulu garder aussi ces témoignages-là. Les actes, parfois, parlent de... de l'arrivée, comment dire, du don de l'esprit sur certaines personnes sans que les apôtres interviennent. Et donc, du coup, les apôtres disent « Vite, vite, allez-les plonger dans l'eau !» Donc, du coup, il y a une perception que la grâce de Dieu déborde même les structures de l'Église. Donc, du coup, que l'esprit est libre de se manifester au-delà même des structures, structure est un gros mot à cette époque, mais des gestes ecclésiaux de l'époque. Pour vous donner un exemple de ce que nous venons de dire, je vous propose, et je change de document, je vous propose de commencer à lire le dossier de texte. Mais avant de commencer, je vous pose une question. Est-ce que vous avez besoin d'une pause?
Non.
Vous voulez qu'on coupe? Oui. Tout le monde d'accord pour continuer?
Oui.
Je vois que c'est Pierre.
Oui, on peut continuer.
On continue. Ceux qui sont fatigués restent un peu peuvent sommeiller. Hein. Après,
c'est dommage aussi
de dormir, pas de boire de vin, encore que vous pouvez boire de vin, mais sinon vous écoutez, si ça vous échappe quelque chose, vous écoutez l'enregistrement. Donc je peux continuer, vous me donnez votre bénédiction?
Oui.
Parfait.
Oui, bénédiction donnée.
Parfait. Et donc je vais ouvrir le document. Je ferme l'autre et je vais partager l'écran, comme ça vous l'aurez sous les yeux. Voilà. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie du plan, c'est-à-dire, je vais vous dire comment nous allons le faire. Nous allons le faire, j'aime toujours cet exercice avec vous, je le fais à la manière des archéologues. Vous savez que quand on fait de l'histoire du culte ou de la liturgie, on fait ce que les archéologues appellent des carottages. Qu'est-ce que sont les carottages? Comme on le fait quand on creuse, hein, pour faire des travaux dans les voies publiques. On va faire des sondages, des carottes. On va creuser des carottes dans différentes strates de l'histoire pour voir comment ces gestes baptismaux, pour nous, hein, ont pu évoluer. Et donc, vous le voyez que le dossier de texte que je vous ai mis là commence par les actes des apôtres, se poursuit au deuxième siècle, et puis continue au quatrième siècle. Voilà. Et puis, je m'arrête pour le carottage au quatrième siècle, parce que le quatrième siècle, quelque part, marque le point d'arrivée de la structuration des rites du baptême, et nous reconnaîtrons dans les rites du IVe siècle ce que nous vivons encore aujourd'hui. Eh bien, quand je regarde le premier texte que j'ai là sous les yeux, celui des Actes des Apôtres, nous restons encore dans le domaine des premiers textes du christianisme, eh bien, nous allons à des plus beaux textes. Moi, à chaque fois que je le lis et je le commente, j'aimerais bien le lire et le commenter avec vous pour que vous arriviez à saisir l'intelligence du geste baptismal et de ce que ce geste veut dire. Eh bien, le texte commence comme ça. Je me permets... Est-ce que quelqu'un voudrait le lire? Comme ça, on change de voix. Anaïs? Mais vous devez ouvrir le micro, hein?
Voilà, voilà. L'ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit « Pars et va-t'en, à l'heure de midi, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. » Il partit donc et s'y rendit. Justement, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, qui était venu en pèlerinage à Jérusalem, s'en retournait, assis sur son char en lisant le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et rattrape ce char. » Philippe y courut, et il entendit que l'eunuque lisait le prophète Isaïe. Il lui demanda, « Comprends-tu donc ce que tu lis ?»« Et comment le pourrais-je » dit-il. Ces personnes ne me guident. Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir près de lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était le suivant. Comme une brebis, il a été conduit à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tend, ainsi il n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement, la justice lui a été déniée. Sa postérité qu'il la racontera, car sa vie est retranchée de la terre. S'adressant à Philippe, l'eunuque lui dit, je t'en prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre. Il y prit alors la parole et, partant de ce texte de l'Écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Chemin faisant, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit, « Voici l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Si tu crois de tout ton cœur, c'est permis. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Et il fit arrêter le char. Ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe avec l'eunuque, et il le baptisa. Mais quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Et il poursuivit son chemin tout joyeux.
Voilà l'un des textes. Merci Anaïs pour votre lecture. Voilà un des textes très important, qui nous plonge, comme je vous disais, dans la manière dont les premières communautés pouvaient se transmettre l'expérience du Christ lui-même, notamment dans le cas précis, par le vécu baptismal, par l'expérience du rite baptismal. Alors, vous le remarquerez, ceux qui sont plus sensibles à ça, ce texte est presque une bande dessinée écrite, mise par écrit. C'est que, si quelqu'un d'entre vous avait la capacité de le faire, moi j'en suis complètement incapable, pourrait rendre en bande dessinée ce texte, tellement il est percutant, tellement il est plein d'images, tellement il permet d'apercevoir une dynamique et un dialogue entre les personnages. C'est en vérité une mise en dialogue. Il relate un dialogue entre deux personnages, Philippe et l'eunuque.
Intouchable.
Ça y est ?
Philippe intouchable.
Donc, j'aimerais bien vous montrer les paradoxes que ce texte, auxquels ce texte nous invite. Tout d'abord, on pourrait intituler ce texte, avec des mots qui sont les nôtres, « Mission impossible ». Je vous fais, à la manière de 007, hein, je vous fais remarquer pourquoi cela. Regardez le verset 26. Hein. « L'ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, « Pars et va-t'en à l'heure du midi sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. » Voilà une mission impossible pour l'apôtre. Pourquoi ? Je vous fais remarquer, d'abord déjà l'apparition d'un ange, c'est quand même pas évident de voir apparaître en face de soi un ange du Seigneur. Naturellement, vous comprenez que l'expression « ange du Seigneur » fait référence à l'intervention de Dieu lui-même. Et parfois, l'ange du Seigneur peut être interprété comme l'Esprit lui-même. Eh bien, l'ange du Seigneur s'adresse à Philippe. Et pourquoi c'est impossible ? Parce qu'il lui dit, va à l'heure du midi. Est-ce que vous prenez conscience au Proche-Orient, vers Jérusalem, par là, à midi, en plein cagnard ? Et en plus, il lui demande d'aller sur une route qui descend de Jérusalem à Gaza. Et on sait aujourd'hui que cette route était infestée de brigands, de gens qui volaient l'argent, qui tapaient sur les gens. Et qui plus est, pas seulement elle est périlleuse, mais elle est déserte. Donc même si Philippe crie à l'aide, il ne sera pas aidé. Donc tout ce qui est demandé à l'apôtre est celui d'aller faire quelque chose d'impossible. Donc on commence bien, vous voyez, et on met en face des auditeurs, parce que ce texte nous est adressé à nous, hein, je vous fais remarquer. Donc, à quelque chose d'impossible pour lequel Dieu peut. Et donc, dans l'obéissance de la parole adressée par Dieu, Philippe part et se rend sur cette route. Et comme par hasard, je dirais, le par hasard, si on peut avoir un peu d'humour, il rencontre un personnage, les Actes des Apôtres le décrivent bien, hein, un Éthiopien, eunuque, haut fonctionnaire de Candace, comme la plupart des hauts fonctionnaires. Candace était la reine d'Éthiopie, donc ce n'était pas n'importe qui. Hein. Il sait lire, il est assis sur son char, ce n'est pas lui qui conduit. Donc il a le bien-être de lire, assis, il est servi. Hein. Et s'il revient de Jérusalem vers Gaza, c'est qu'il est allé à faire ses, on pourrait dire, ses dévotions. J'emploie une expression qui n'est pas propre. Il est allé au temple de Jérusalem. Il est allé pour des raisons religieuses. Et donc il dit... Il est retourné de Jérusalem et il lit le prophète Isaïe. Et là, les Actes des Apôtres sont explicites. L'Esprit dit à Philippe, l'ange du Seigneur, l'Esprit. Donc, du coup, celui qui pouvait être voilé se dévoile. C'est l'Esprit lui-même qui s'adresse à Philippe. Avance et rattrape ce char. Autre chose pas évidente. Rattrape ce char. Mets-toi à courir quand même, va le rattraper, un peu comme si on avait perdu un bus. Hein. Philippe court et il entend, le texte dit, l'eunuque qui lit le prophète Isaïe. C'est très intéressant cette remarque, hein, dont nous, pour laquelle nous ne sommes plus habitués. Si le texte dit qu'il entend l'eunuque, je vous rappelle qu'à l'époque ancienne, on ne lisait pas pour soi-même. On lisait toujours à voix haute. Donc, on entend celui qui lit. Et c'était impossible de lire pour soi-même. Tout texte était déclamé. Donc il entend et Philippe lui pose la question fondamentale. Tu lis, mais est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et l'eunuque, de manière assez surprenante, c'est là que les dialogues s'instaurent, hein, dit « Comment le pourrais-je si personne ne me guide ?» Regardez le paradoxe, c'est assez intéressant. C'est plein de, c'est foisonnant d'informations. L'eunuque est sur une route, en train d'être guidé, assis commodément dans un char, mais il est incapable d'être guidé dans la lecture et la compréhension des Écritures. Il est démuni lorsqu'il s'agit de comprendre les Écritures. Il a tout ce qu'il faut, mais il est pauvre de cette possibilité. Et donc, Philippe devient son guide. C'est le propre, là, nous reconnaissons le propre, une des manières dont les premiers apôtres, les premiers disciples évangélisaient. Voilà, il s'assied sur le char, près de lui, dit le texte, c'est très important, il dit une certaine intimité, une certaine relation. Hein. Et voilà qu'il nous est donné le texte de ce char, vous l'avez reconnu, hein. C'est un des textes que nous lisons encore aujourd'hui le Vendredi Saint. C'est-à-dire, ce texte est au cœur de l'annonce de la part des chrétiens de la mort du Christ. De la mort rédemptrice. Hein? De la mort rédemptrice. Et du coup, le texte cite, les Actes des Apôtres citent ce passage du prophète Isaïe, et le texte à verset 34 continue, s'adressant à Philippe, l'eunuque lui dit « Je t'en prie, de qui le prophète dit-il cela, de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Nous sommes là à nouveau au cœur de la manière dont les premiers chrétiens avaient de lire l'Écriture. C'est-à-dire que l'Ancien Testament devenait ou dévoilait le mystère même du Christ. Et donc, la question de l'eunuque n'est pas inintéressante, elle est même centrale. Qui il y a derrière ce personnage si mystérieux, hein? Et là, le texte nous dit, Philippe prit alors la parole et partant de ce texte de l'Écriture, lui annonça la bonne nouvelle. Enseignement, annonce. Hein? Cette personne, cet homme qui comme une brebis a été conduit à la boucherie et qui comme un agneau a été tondu, c'est le Christ qui est mort et est ressuscité. Là, je remplis un blanc qui pouvait être probablement ce que Philippe lui a raconté. Première perception, annonce, voyez. Et après, il y a l'autre moment. Chemin faisant, donc le chemin de la pensée, ce n'est pas seulement le chemin concret, le fait que le char avance, mais pensez aussi le chemin que l'Écriture fait dans le cœur de l'eunuque. Parce que l'Écriture et l'annonce du Christ fait du chemin en nous. Bien, chemin faisant, ils arrivèrent à un point d'eau. On ne dit pas qu'est-ce que c'est un point d'eau. Ça peut être un étang, ça peut être une rivière, ça peut être, vous voyez, un point d'eau. C'est important de garder cette non-indication précise. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? La question ou la remarque de l'eunuque, à nouveau à la manière d'Agatha Christie, nous fait penser que Philippe a dû lui parler quand même du salut obtenu, comme Pierre l'avait fait, hein, à ses auditeurs. convertissez-vous et faites-vous plonger dans l'eau. Donc, la question de l'eunuque montre le non-dit de la part de Philippe qui a dû lui dire. Et donc, là, je vous ai mis entre parenthèses carrées, je vous l'ai mis en note, vous voyez la note en bas de page, vous dit d'où vient cette parenthèse carrée. C'est un verset qui est attesté par des témoins du deuxième siècle postérieur à la première rédaction des Actes des Apôtres. Et ce verset pourrait être l'écho d'anciennes formules baptismales, parce que l'eunuque dit, non, le Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, c'est permis. » Et l'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » C'est une sorte d'adhésion à l'annonce de l'Évangile. La réponse d'adhésion à l'annonce. Et donc, le char s'arrête, ils descendent dans l'eau, c'est important, tous les deux dans l'eau. L'apôtre, le ministre, on pourrait dire, plonge avec l'eunuque, avec celui qui va être baptisé, et il est baptisé. Très sobre la description, il n'y a rien de foisonnant, voilà, il y a le geste. Mais le texte continue et le verset 39 n'est pas intéressant non plus. Quand il fut remonté de l'eau, donc descente dans l'eau, remontée de l'eau, rappelez-vous la descente dans l'eau, la remontée de l'eau de Jésus lui-même au Jourdain. Remontée de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, c'est-à-dire qu'il disparaît, disent les Actes des Apôtres, et l'eunuque ne le vit plus. Et alors, on dirait, il se met à pleurer, il va le chercher. Mais non, le texte devient très paradoxal, avec un brin de, on dirait presque des Fioretti de Saint François. Il dit, il poursuivit son chemin tout joyeux. Il poursuivit son chemin tout joyeux. Alors, naturellement, regardez la construction du texte, c'est extraordinaire. Hein? On commence par l'Esprit, l'ange du Seigneur, et on termine par l'Esprit. L'Esprit du Seigneur enlève Philippe, et la joie de l'eunuque n'est rien d'autre que la joie du don de l'Esprit. Je vous rappelle que Paul nous dit dans ses lettres, l'Esprit est source de joie, de paix, de calme, de sérénité. Hein? Donc, c'est bien ce qu'est en train de vivre l'eunuque. Donc là, nous avons en condensé une description. On ne veut pas en vérité décrire le baptême. On veut décrire dans les Actes des Apôtres la manière dont se faisait l'évangélisation à cette époque. Mais l'évangélisation, vous le voyez, passe par la mise en œuvre d'un geste baptismal. Il marque l'adhésion à cette première annonce. Quand nous fermerons les caméras ce soir, tantôt, si vous avez envie, ce soir ou demain ou après-demain, allez mettre en colonne parallèle ce texte avec, par exemple, mettez ce texte à votre droite et ouvrez à votre gauche le texte qui relate dans l'évangile de Luc la rencontre des disciples d'Emmaüs. Vous vous rappelez de ce passage des disciples d'Emmaüs, hein? Eh bien, si vous les mettez côte à côte, vous verrez, vous savez que l'auteur Luc est aussi auteur des Actes des Apôtres, on le sait du point de vue exégétique. Eh bien, Luc nous donne là une sorte de diptyque par les disciples d'Emmaüs. Il nous montre la même dynamique. Réfléchissez, c'est le pèlerin qui parcourt la route, qui rejoint les deux disciples, qui est inconnu aux yeux des disciples et qui apparaît d'emblée à la fraction du pain et puis il disparaît. Et là, c'est pareil pour le récit que nous venons de lire. Et le premier, donc, est un récit de l'Eucharistie. Et celui-ci est un récit du baptême. Nous avons là un diptyque des premiers gestes des premiers chrétiens dans ces gestes qu'on peut appeler sacramentels. Voilà. Donc, vous l'avez remarqué déjà, s'il fallait noter quels sont, nous reconnaissons dans ce texte ce que je vous avais dit tout à l'heure, il y a un geste fondamental, la plongée dans l'eau, qui est précédé par un enseignement, qui, cette plongée d'eau, est accompagnée par le nom de Jésus. Et cette plongée donne, procure le don de l'Esprit. Nous sommes là au premier siècle de l'ère chrétienne. Un peu plus tard, voilà, deuxième carottage. Un peu plus tard, nous avons un deuxième texte, un texte qu'on appelle, voyez, je vous l'ai mis là, la doctrine des 12 apôtres. Et entre parenthèses, didaké. C'est, je vous fais remarquer, vous pouvez le souligner, le marquer à côté de votre texte en papier si vous l'avez. Ce texte est extrêmement important. Il s'éloigne du genre littéraire des évangiles ou des actes des apôtres, des lettres pauliniennes, mais il est extrêmement ancien. Il est très proche des écrits du Nouveau Testament parce qu'il est daté des années 130, 140 de l'ère chrétienne. C'est un texte d'un genre littéraire différent. À cette époque, c'est-à-dire vers les années 130-140, puisque les chrétiens s'éloignent de la génération qui a connu les apôtres, on sent le besoin, dans cet écrit, mais dans d'autres écrits aussi du même genre, de fixer les coutumes et les manières de vivre dans une église chrétienne donnée. Et donc, on rédige ces textes qui fixent ou qui relatent la manière, par exemple, d'ordonner des presbytres ou des évêques, d'organiser une église, de baptiser, de célébrer l'Eucharistie, de prier, de vivre l'entraide dans une église. Et puisque ces textes ne sont pas néo-testamentaires, et pour leur donner autorité, on leur attribue le titre, on les attribue à la main des apôtres eux-mêmes, d'où le titre de la doctrine des 12 apôtres. Naturellement, ce ne sont pas les 12 apôtres qui ont écrit ce texte, c'est quelqu'un d'une communauté chrétienne donnée qui a voulu donner autorité et qui attribue ce texte aux apôtres eux-mêmes. Et donc, on a là les deux titres, doctrine des 12 apôtres, et puisque c'est une doctrine, c'est une didaké, mot grec qui veut dire enseignement. Et donc, l'un des chapitres de ce texte concerne le baptême. Regardez, alors, avant de continuer, sachez que ce texte est un texte écrit en grec. Il nous est parvenu en grec, en langue grecque, la langue des évangiles. Donc, voilà ce que dit ce texte. Pour le baptême, baptisez de cette manière. Après avoir dit auparavant tout ce qui précède, baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans de l'eau courante. Si tu n'as pas d'eau courante, baptise dans une autre eau. Si tu ne peux pas, dans de l'eau froide, dans de l'eau chaude. Si tu manques de l'une et de l'autre, verse trois fois de l'eau sur la tête au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le baptisant, le baptisé et d'autres personnes qui le peuvent jeûnent avant le baptême, mais ordonnent au baptisé de jeûner un jour ou deux auparavant. Tout simple. Voilà tout ce qui est dit du baptême. J'essaie à nouveau de le commenter avec vous, de vous le faire découvrir. Je vous fais remarquer, c'est un texte des années 130 de l'ère chrétienne. Le monde juif n'a pas des textes aussi anciens. C'est une pratique tout à fait propre au christianisme à cette époque-là. Ce texte commence par justement faire allusion au thème qu'il développe principalement dans ce chapitre, le baptême. Il est question de baptême. Pour le baptême, baptiser de cette manière. Et là, il est dit, après avoir dit auparavant tout ce qui précède. Alors, il est difficile de comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Alors, je ferme les choses qui ne nous intéressent pas. Voilà, après avoir dit auparavant tout ce qui précède, ça veut dire que dans les 6 chapitres précédents, le texte a parlé de ce qu'il faut faire pour vivre en chrétien. C'est à proprement parler une catéchèse, un enseignement. Et donc, après avoir dit auparavant tout ce qui précède, veut dire en gros, après avoir fait l'enseignement de la vie chrétienne. Donc, enseignement, baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans de l'eau courante. L'expression dans de l'eau courante nous fait penser, et là les spécialistes qui ont travaillé ce texte nous le disent, qu'il y a là un usage juif. Pour les juifs, il est très important de se plonger dans des piscines, dans des lieux qui n'ont pas d'eau stagnante. L'eau stagnante est symbole de mort. L'eau courante est symbole de vie. Donc, première perception, eau courante. Mais après, regardez, le verset 2 et le verset 3, dans le verset 2 et dans le verset 3, on a toute une casuistique, on pourrait dire, toutes des questions autour de l'eau. Si tu n'as pas d'eau courante dans une autre eau, si tu n'as pas de l'eau froide dans de l'eau chaude, si tu manques de l'un ou de l'autre, verse 3 fois. Là aussi, on pourrait faire une bande dessinée, presque comme une sorte de bande avec un peu d'humour. Hein. C'est-à-dire, nous sommes là dans la prise de photos, dans la fixation, nous pouvons constater là qu'il y a des changements dans la communauté chrétienne elle-même. Hein. D'une eau idéale courante, on fait ce qu'on peut au deuxième siècle, là où on trouve de l'eau. Et si on la trouve, vous voyez, donc toutes les possibilités sont données. C'est une communauté vivante, ce n'est pas une communauté figée. Mais l'important, vous voyez, reste toujours verse sur la tête au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et puis regardez le verset 4, que le baptisant, le baptisé et d'autres personnes qui le peuvent jeûnent avant le baptême. Nous avons là à nouveau la perception que le baptisé n'est pas seul, qu'il est entouré d'une communauté, d'un groupe de croyants. Parce qu'il dit le baptisant, le sujet qui est le ministre, le baptisant, le baptisé, le sujet du baptême, et d'autres personnes. Ça veut dire qu'il y a un groupe qui participe à cette action baptismale, à ce rite baptismal, et on demande de jeûner. L'acte de jeûner est à proprement parler biblique. Dans toute la Bible, vous trouverez dans les moments essentiels de la vie d'Israël, du peuple d'Israël, du peuple juif, avant une grande bataille, avant une rencontre, avant quelque chose d'important, on se prépare par la prière et le jeûne. n'y voyait rien de négatif en cela. C'est une question de se mettre en condition de se préparer rituellement. Mais tenez compte de ce pôle que j'appelle un pôle ascétique, c'est-à-dire qui demande un renoncement. Je n'ai, c'est pas évident, hein, voilà. Mais c'est pour se préparer à mieux vivre le baptême. Donc vous voyez, c'est toute la communauté qui le fait, autrement, exception, mais ordonne aux baptisés de jeûner un jour ou deux auparavant. Donc nous avons là à nouveau, des nouvelles indications du vécu baptismal tel qu'il pouvait être vécu dans une communauté probablement de la Syrie occidentale, probablement de la ville d'Antioche, pensent les spécialistes, que ce texte vient de la ville d'Antioche, qui, tout en ayant encore des références au monde juif, le courant, met en œuvre une propre manière de baptiser, notamment, je vous fais les remarquer, l'idée fondamentale, la participation fondamentale du ministre. Remarquez cela. Autant le monde chrétien a pu s'inspirer ou continuer les pratiques juives d'ablution dans l'eau. Vous savez que les juifs donnent beaucoup d'importance encore aujourd'hui aux ablutions de purification dans l'eau. Mais ces ablutions, je vous fais remarquer, adviennent toujours en se les procurant soi-même. On se plonge soi-même dans l'eau en monde juif quand on fait des ablutions rituelles. Pour les chrétiens, il est impossible de se auto-procurer une plongée. Il faut qu'un ministre signifie cette intervention de Dieu et donc de l'Esprit dans la vie du baptisé. Et donc, il y aura toujours un ministre qui donne le baptême au sujet qui demande le baptême. C'est une des caractéristiques, j'insiste, propres au baptême chrétien, inauguré par le baptême que Jean-Baptiste pratiquait et qu'il a fait à Jésus lui-même. Je ne continue pas avec les autres textes. Nous reprendrons la lecture. Vous pouvez, d'ici mardi, lire les autres textes de manière de dégrossir ce qu'on va lire, parce qu'on ne va pas les lire en entier. Vous verrez, les autres textes sont assez longs. Hein. Donc, je ferai que quelques remarques principales. Mais déjà, si vous voulez bien, on s'arrêtera à 55 parce que j'ai une autre réunion à 16 heures. Mais nous avons 4 minutes pour quelques questions, je dirais pour le moment, d'explicitation de ce texte. Si vous avez quelques questions précises à demander, de compréhension de ce texte.
Ce que nous venons d'écouter, ça se pratique également actuellement.
Ça se pratique, voilà, votre remarque, vous voulez dire. Je reconnais quand même, je dirais, je prolonge ce que vous dites, nous reconnaissons dans ce que nous venons de lire le geste originaire du baptême.
Oui.
Mais il est clair que ce geste, et je vous invite à lire les textes qui suivent de cette manière-là, ce geste initial qui est tout simple, une plongée accompagnée d'une parole au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, va se développer. Le baptême que l'eunuque de la reine de Candace a vécu n'est pas exactement le baptême que les baptisés adultes vivent aujourd'hui, beaucoup plus développé, et que nous verrons se développer par la suite au IVe siècle, par exemple. Mais il est vrai, vous avez raison, Anaïs, c'est-à-dire, je reconnais quand même le noyau central.
Oui.
En deux minutes, moi, je voudrais dire que le oui. texte de Philippe et l'Éthiopien, c'est vraiment ce qu'on continue à vivre aujourd'hui dans le catéchuménat.
Oui.
Toute cette approche qui est une mission donnée par l'Esprit-Saint qui fait qu'on s'approche, on s'assied à côté et pas en face en enseignant. On est côte à côte. On part toujours des Écritures.
Tout à fait.
Et voilà, et c'est un chemin ensemble.
Tout à fait.
Et qu'on doit avoir en tête, c'est pas si la personne est prête, parce qu'on n'est jamais prêt à recevoir ce sacrement. Enfin, voilà, c'est toute une vie, mais c'est la question qu'il pose quand il dit qu'est-ce qui empêche. Voilà, c'est regarder la personne du côté de ce qui est possible, de ce qui empêche.
C'est tout à fait juste ce que vous dites, Ariane, parce que d'une part, ça illustre bien ce qu'est une initiation. C'était une initiation n'est pas inculquer une doctrine à quelqu'un, mais le faire, le conduire, l'accompagner dans un chemin que lui-même fait, être témoin de ce chemin que l'autre fait, que la grâce opère dans l'autre, d'où effectivement la question de l'eunuque Philippe est assez importante. Elle n'est pas provoquée par Philippe, il surgit du désir de l'eunuque. Il est question de liberté. Vous connaissiez ces textes ?
Non.
Ah oui, peut-être celui de l'eunuque, oui.
Celui de l'eunuque, peut-être.
Oui.
Peut-être pas la Didaquée. Mais non. Vous verrez, les autres que nous allons continuer à lire, que vous pourriez le lire, et puis nous allons le reprendre la prochaine fois, en tuilant avec la partie plutôt du rituel, vous verrez, sont encore plus intéressants. Puis ce ne sont pas des... Comment dire ça? Ce sont des documents historiques, hein, je vous fais remarquer. Ce n'est pas des inventions. Ils sont considérés comme des documents historiques d'une époque chrétienne donnée. Donc, c'est très important de les faire propre pour voir quelle a été notre propre tradition. Quelle est notre propre tradition? Je vous propose de nous saluer. Et comme toute salutation, c'est toujours difficile de se saluer, mais je suis heureux de savoir qu'on va se revoir mardi prochain.
Merci.
Merci Isaïa.
Merci pour votre attention.
Bravissimo.
Merci pour votre attention.
Merci à vous. Merci. Merci
bon beaucoup. Courage. Prenez soin de vous.
Merci. Vous aussi.